France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Oui, bienvenue dans cette semaine, puisque la précédente s'est terminée d'une drôle de façon. Vous allez l'entendre, notamment quand Julien Dray parle du nouveau dirigeant du Parti Socialiste, Olivier Faure. Il était temps que ça se termine, on écoute tout de suite Julien Dray.
Je le connais depuis très longtemps. Il a un physique agréable, comme on dit. Souvent, je le poussais en disant qu'il était un peu une sorte de Georges Clooney de la politique.
Voilà, donc c'était Julien Dray hier sur BFM. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis bienvenue dans cette semaine où normalement il ne devrait pas y avoir de déclaration comme ça. Enfin, normalement, on ne sait jamais. Et eux, ils viennent en tout cas boire un grand bol d'actualité. Ce soir, les informés de France Info reçoivent Stéphane Vernet, bonsoir, de Ouest France.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Également la communicante Aurélie Motarivet, bonsoir.
Bonsoir.
Et François Dorcival, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
De Valeurs Actuelles. Et Anthony Bélanger, bonsoir.
Mais
Anthony.
Oui, moi je viens toujours avec le George Clooney de l'info que vous êtes.
Ah bah écoutez, on essaye, mais bon, je pense pas tellement physiquement, voilà, de France Inter. En effet, on vous retrouve tous les matins pour la rubrique internationale. Notamment. Et ce soir, ça tombe bien, puisqu'on parlera de Vladimir Poutine qui occupe son week-end avec une élection. On parlera d'Emmanuel Macron qui s'est trouvé un nouveau jeu, la Constitution, également eh bien, de nouveaux plans contre le chômage, pour l'assurance chômage, pardon. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors, pas de doute, cette semaine, avec le ciel gris, la neige et le verglas, ça sent le printemps. Et oui, hein, ça sera d'ailleurs demain et non le 21 mars. Et vous connaissez le proverbe, quand arrive le printemps, sortent les manifestants. Et ce sera jeudi. Un test d'ampleur pour le gouvernement, puisque ce 22 mars verra une contestation venue de différentes professions. Il y aura les fonctionnaires avec 140 manifs à travers la France, les retraités, les personnels des EHPAD. Ajoutons à cela les cheminots, les agents de la RATP, les contrôleurs aériens. Bref, cette journée pourrait devenir un symbole des colères contre le gouvernement. Malgré un décrochage dans les sondages de popularité et des élections intermédiaires pas folichonnes pour l'exécutif, rien n'arrêtera le chouchou de la réforme, le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
Oui, nous tiendrons. Oui, nous tiendrons. Les conditions sont réunies pour que cette transformation soit réussie et qu'on ait d'ici quelques mois une SNCF qui se porte mieux.
Voilà, Bruno Le Maire, hier sur France Inter, le message du gouvernement, Aurélie Motarivet, c'est, je le cite, hein, « La mobilisation sociale n'a pas marché contre la loi travail, on est confiant ». Est-ce qu'il a raison de l'être ?
En fait, c'est une stratégie très maligne, c'est celle de la République en marche forcée, d'une certaine manière. On est dans la stratégie de l'overdose, de la sursaturation, de l'hyperactivité gouvernementale qui donne presque le tournis, y compris aux représentants syndicaux eux-mêmes qui sont au bord du burn-out. Donc je trouve que c'est, en termes de stratégie, c'est la rapidité qui est en général payante. Après, le risque dans cette stratégie-là, c'est que les ministres n'impriment pas sur les réformes, que les réformes n'impriment pas tout court et qu'in fine, on cristallise sur Emmanuel Macron et sur le style d'Emmanuel Macron l'ensemble des critiques.
Oui, François Dorcival, quand on voit là quand même le 22 mars prochain, ouais. Jeudi, il y a quand même une sorte de coagulation,
oui. Ouais,
des luttes.
Non. Oui, mais tout de même extraordinairement éloignés les uns des autres, les EHPAD, les retraités, etc. Donc, non, l'essentiel, ce sont en effet les cheminots, les contrôleurs aériens, les transports publics. C'est là qu'une grève marque. Bien, est-ce que ça va être réussi ? On va voir. Parce que c'est une journée et ensuite, ils nous promettent une grève perlé.
Alors ça, c'est la SNCF, en effet.
Ça, c'est la SNCF.
À partir du début d'avril.
Mais ce qui se verra, de toute façon, ce sont d'abord ces manifestations-là. Il se trouve que ça vient 50 ans après le 22 mars 68.
Donc, le début du mouvement.
Ça va donner des échos de toute nature. Maintenant, on va voir si cette manifestation est plus importante que les plus importantes du mois de septembre dernier. C'est ça qui se joue. Et à partir de là, eh bien, il y aura un climat social qui se déclarera.
Anthony Bélanger, oui. Le fait tout de même de voir des colères aussi variées, comme ça, dans la rue, voilà, mais est-ce que ça ne montre pas qu'il y a un malaise quand même aussi, à chaque fois ?
Vous savez, moi ma spécialité, c'est quand même de voir un petit peu ce qui se passe à l'étranger, où c'est déjà produit. Et donc, il y a eu déjà ce genre de fringales de réformes dans d'autres pays que le nôtre, comme par exemple en Italie, au moment où Matteo Renzi est arrivé au pouvoir. Vous savez, pendant 6 mois, 1 an, vous allez voir ce que vous allez voir, entre le Job Act et un certain nombre d'autres réformes, Matteo Renzi avait essayé de réformer le pays. Alors, comparaison n'est pas raison. L'Italie est plus difficilement réformable que la France. À l'époque, il disposait d'une majorité à la Chambre, mais pas forcément au Sénat. Donc, ça a été compliqué de négocier à l'italienne. Mais cela dit, on voit comment ça s'est terminé. Très mal pour lui.
Oui,
aujourd'hui, il a littéralement disparu de la... En Espagne aussi, au début de la crise...
Est-ce que c'est pour ce motif-là ?
Alors, d'un côté, vous avez un ratage, et de l'autre côté, vous avez presque une réussite qui est en fait, en Espagne, au moment, au début de la crise, le gouvernement de Mariano Rajoy a comme ça accéléré le rythme des réformes, histoire d'avoir le quitus, si vous voulez, de Bruxelles. Ça avait plutôt réussi. L'Espagne ne s'était pas mobilisée, mais elle était aussi assommée par la crise. Et aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire, Mariano Rajoy est encore au pouvoir et le parti populaire est encore en tête dans les sondages. À touche-touche avec le parti macroniste espagnol qui est Ciudadanos.
Et je crois que l'opinion crédite beaucoup l'action aujourd'hui. Je crois que c'est ça qui est assez nouveau également. On est 2018, c'est plus que 95. L'opinion est vraiment attend de l'action, attend du mouvement et attend des actes concrets, puisqu'il y a eu tellement de promesses non tenues qu'on est rentré dans cette demande finalement.
Ce qui est assez étonnant, Stéphane Vernès, c'est que alors les Français attendent de l'action ou attendent de voir les réformes. Ils peuvent soutenir en effet par rapport au statut de cheminot, mais dès qu'on voit une enquête d'opinion, on voit à chaque fois un exécutif qui baisse. Comment ça se fait que les Français, comme ça, disent on peut soutenir sur la réforme SNCF et en même temps on n'accorde pas de confiance au président?
C'est peut-être le style qui agace, qui pose problème. Moi, je trouve que la description qui a été faite par Aurélie Motarivet était très bonne. J'aime bien la réflexion, la formule « la République en marche forcée ». Aujourd'hui, en fait, ce gouvernement ne peut plus faire marche arrière. Il ne peut pas faire marche arrière. On est quand même dans un pays où, depuis 40 ans, dès qu'il y a une contestation sociale, le réflexe, c'est de dire de quoi vous avez besoin. On va payer. On va trouver une solution, on trouve un arrangement. Et ça passe par on débloque des fonds, on creuse la dette. Ce gouvernement-là dit, c'est fini, on ne fera plus ça. Alors, on ne fera plus ça du tout. Et ils sont pris à leur propre jeu. C'est-à-dire que quand Bruno Le Maire dit, on lâchera pas et on ira jusqu'au bout, ils vont le faire après. Est-ce qu'on est arrivé au point de cristallisation qui va déclencher un grand mouvement et qui va poser un vrai problème? Je ne sais pas. Et je le sais d'autant moins que moi, je faisais partie des gens qui étaient persuadés qu'on aurait une retraite sociale forte en septembre, et elle a fait pchit.
Moi, et donc, je pense quand même que le style d'Emmanuel Macron, qui est une espèce de raideur comme ça, régalienne et républicaine, quand même fait beaucoup pour agacer les Français. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on a beau le montrer face au Taj Mahal, ça ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il y a un côté chez lui, qui a la tête près du bonnet, qui donne des leçons aux journalistes quand il est en face d'eux. Bon, ça, j'ai pas de problème avec le fait qu'on reprenne des journalistes, mais pas avec ce ton un peu agacé.
Des commentateurs fatigués.
Oui, voilà. Franchement, j'ai rien contre le fait qu'il se soit exprimé contre un journaliste. Simplement, c'est cette manière de faire qui est à la fois autoritaire et agacée.
Qui peut gâcher
la vie, la popularité du président.
Voilà, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Noémie Bonhomme.
La société Uber impliquée dans un accident mortel. Une voiture autonome a percuté une femme cette nuit en Arizona aux États-Unis. Selon l'entreprise de transport, la piétonne traversait en dehors des clous. 80 000 personnes sans électricité ce soir en Charente-Maritime, c'est à cause de la neige. La ville de Saintes est paralysée aussi sur la route. Le département est en vigilance orange, tout comme les Deux-Sèvres voisines. Le sud-ouest de la France est également en alerte. En tout, 9 départements sont concernés. Une affaire bien délicate pour la diplomatie française. Un chauffeur du consulat de France à Jérusalem est inculpé aujourd'hui, accusé d'avoir sorti des dizaines d'armes de la bande de Gaza vers la Cisjordanie pour le compte d'un réseau de trafiquants palestiniens. L'Union européenne déplore les violations signalées par les observateurs de l'OSCE pendant l'élection présidentielle russe, notamment le manque de concurrence et les pressions sur les opposants. Au lendemain de la réélection de Vladimir Poutine, les Occidentaux n'ont pas été très nombreux à le féliciter. C'est à cause des différents sujets de tension à propos de la Syrie ou encore de l'empoisonnement de l'ancien espion. Emmanuel Macron a tout de même téléphoné à son homologue aujourd'hui. Et puis le beau succès du Salon du Livre à Paris. Il ferme ses portes ce soir avec une fréquentation en hausse, plus 7% par rapport à l'an dernier. 165 000 visiteurs sont venus sur les 4 jours.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, semaine cruciale qui s'ouvre sur le front social avec notamment ce point d'orgue de jeudi où il y aura énormément de manifestations, de contestations et de blocages. On parlait justement de ce ressenti sur le gouvernement, donc au dernier baromètre du journal du dimanche, Emmanuel Macron n'est plus qu'à 42% de satisfait, Édouard Philippe 43%. Est-ce que c'est un signe, François Orcival, quand on voit là aussi, hier il y a encore des élections partielles, on a vu, je précise juste parce que forcément c'est pas des élections qui sont passionnante peut-être pour les gens. Le Parti Socialiste a conservé son siège en Haute-Garonne. Les Républicains sont en tête dans Loiret. La République En Marche éliminée à Mayotte. Oui. Ça fait plusieurs dimanches de suite qu'on voit La République En Marche en échec.
Puisque nous avons eu également deux tests en Val-d'Oise et le territoire de Belfort au mois de janvier. L'accumulation de ces... Ce ne sont plus des sondages. Et on a les sondages, mais en plus, il y a les élections partielles qui confirment les sondages. Donc, effectivement, le début est toujours difficile pour un gouvernement qui vient de s'installer. Ces expériences d'élections partielles, nous les avons depuis longtemps. Il n'empêche que ce sont toujours des signaux à respecter, à analyser et dont il faut tirer les leçons. Mais il y a en effet une contradiction entre une opinion qui soutient les réformes et qui, en même temps, ne soutient pas le gouvernement qui les engage. Mmh. Donc il y a une curiosité dans la situation actuelle et on va voir ce que ça va donner.
Moi je crois qu'il y a quand même beaucoup de petits micros et erreurs qui ont fait le lit de cette impopularité et qui ont commencé à déceler le fait d'avoir tronçonné les gains de pouvoir d'achat en plusieurs fois sur l'année et le tronçonner aussi le gain de c'est une erreur.
C'est la première critique qu'on entend d'ailleurs.
Mais oui, c'est une erreur parce que les gens tronçonnent pas leur niveau de vie, les gens achètent tous les mois ce dont ils ont besoin. Le fait d'avoir cumulé, par contre, c'est comme tous les ans, l'ensemble des hausses au début d'année, c'est aussi une erreur. Ne pas avoir vu, c'est montrer qu'on est loin de la vie quotidienne des Français. Il fallait prendre le risque, eh bien oui, de dire tout de suite, d'appliquer tout de suite les baisses de charges et la baisse
de la
taxe d'habitation, de manière à pouvoir régler le problème.
D'ailleurs, on le voit, Aurélie de Montarrivé, là, cette baisse dans les sondages d'Emmanuel Macron, ça vient de chez qui? Surtout des retraités.
Exactement, enfin, c'est surtout ça.
Voilà, il y a aussi les retraités.
Ce sont les gens qui votent le plus, en plus.
Je reviens parce que je trouve que c'est quand même assez sensible aussi. Cette manière, on a vu le ministre de l'économie dire, comme Alain Juppé au fond, il y a en 95, je suis droit dans mes bottes. On voit aussi, encore une fois, Emmanuel Macron reprendre avec un peu de morgue et de condescendance une journaliste. Il y avait moyen de dire la même chose avec le sourire, et en lui disant, madame, vous auriez peut-être, je pourrais peut-être lui donner des fonds de communication.
Mais
il y a une espèce de raideur gouvernementale qui finit par être désagréable quand en plus les Français doivent compter les uns après les autres des baisses qui ne viennent pas.
Aurélie Motarivé, on a entendu d'ailleurs, les retraités en effet sont en colère. Ce soir, les syndicats ne sont pas contents aussi après le plan sur l'assurance chômage davantage de contrôle. On voit en effet qu'à chaque fois qu'on présente quelque chose, alors Emmanuel Macron dit à chaque fois, bon forcément il y a des colères, mais là ça fait beaucoup quand même. Là.
Le risque en fait c'est de passer, en termes de communication, il est passé finalement d'une phase de séduction à une phase d'autorité et le risque c'est de finir dans l'autoritarisme et on n'est pas très loin. Je trouve que ce qui est intéressant en termes de couverture médiatique, vous avez vu l'ampleur qu'a pris le projet de réforme du droit d'amendement.
Ouais, on va en parler.
Dans la réforme de la Constitution. Et je crois que ça, c'est un exemple très intéressant, parce que fait qu'on cristallise là-dessus montre qu'en fait, on commence à avoir une petite musique de fond sur la dérive autoritaire.
Alors justement, train d'enfer donc en ce moment, et c'est vrai qu'un homme ou une femme politique, c'est tout de même quelqu'un à part. Hein. C'est vrai, nous, quand on se réveille, on se dit, tiens, il faut que je pense à payer la cantine des enfants, tiens, mon crédit ne s'est pas remboursé tout seul dans la nuit, c'est vrai, ou tiens, je n'ai pas envie d'aller travailler. Une femme ou un homme politique, ce serait plutôt « j'ai bien dormi, j'ai comme envie de réformer la Constitution ». C'est bizarre, personne d'autre que eux se lèvent en se disant « tiens, j'aimerais réformer la Constitution ». Aujourd'hui, Édouard Philippe a rendu ses conclusions sur la prochaine réforme constitutionnelle à Emmanuel Macron. Réduction du nombre de parlementaires, introduction d'une dose de proportionnelle, reconnaissance d'une spécificité Corse, restriction du nombre d'amendements, lutte contre le réchauffement climatique. Hein, cette réforme, c'est une sorte de chariot des desserts de la politique, mais c'est risqué. Et certains s'inquiètent d'un méchant retour de l'histoire. On écoute Dominique de Villepin.
Le président ne doit pas être en première ligne sur tout. Il ne peut pas avoir raison sur tout. Sans quoi, c'est la tentation de trop d'autorité. Et au bout du compte, on prend trop de coups et on s'use. Donc je crois qu'il a intérêt à s'enrichir de soutien, de relais, de gens d'expérience.
Voilà, Dominique de Villepin, hier ce dimanche, donc une offre d'emploi de la part de l'ancien Premier ministre. En tout cas, c'est pratique pour ça.
C'est surtout un transfert psychanalytique, il parle de lui, cet homme. Enfin, c'est incroyable.
Stéphane Bernet, cette réforme de la Constitution, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué, on pense au départ, c'est pas très populaire, mais ça devient un sujet vraiment politique. Une nouvelle fois, est-ce que là, il y a urgence à réformer? On sait que c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, mais est-ce qu'il y a vraiment urgence, là, maintenant, tout de suite?
Mais vous venez de le dire, Jean-Mathieu, c'est une promesse de campagne. Il l'a redit au congrès de Versailles en juillet l'année dernière. Il veut le faire avant l'été. Et puis c'est le président qui fait ce qu'il a dit qu'il ferait.
Donc, mais il a le temps, non? Donc, on se dit pour ça, non?
Non. Alors effectivement, moi je trouve que il faut appliquer à la réforme constitutionnelle ce que vous avez dit tout à l'heure, Aurélie, sur l'ensemble des réformes. C'est-à-dire que là, on dit réforme constitutionnelle et on met tout. On met tout dedans. Et on met tout dedans. C'est-à-dire le droit d'amendement, c'est-à-dire le cumul des mandats, c'est-à-dire la dose de proportionnelle, etc. Pardon, Stéphane, mais... Et c'est là où il peut y avoir, à un moment donné, une sortie de route ou un dérapage. Parce que à tout faire ensemble, eh bien, effectivement, oui, il risque de se trouver devant une difficulté. Et notamment celle du Sénat.
Anthony Méjean, je trouve ça assez malin, parce qu'au fond, s'il y a une petite erreur qui est commise sur une réforme ou sur une autre, en fait, il y aura tellement de choses qui auront été faites en même temps qu'on ne s'en rendra pas compte. Je vous rappelle que c'était Nicolas Sarkozy qui avait exactement appliqué la même méthode, vous savez, une réforme à la minute, une idée tout le temps, et puis on réforme vite. Sauf que Nicolas Sarkozy était un peu le grand causeux, le petit faiseux, et en l'occurrence, Macron a l'air d'avoir retenu la leçon de Nicolas Sarkozy. Il faut effectivement faire des réformes très vite, mais en les faisant vraiment. Donc, pour le coup, je trouve ça assez habile.
Mais ça sert quelque chose, vous trouvez, à faire cette réforme de la Constitution maintenant, en effet, vous l'avez dit tout à l'heure, Aurélie, c'est, là, on parle d'assurance chômage. Il y a 7 nouvelles réformes qui vont venir avant le mois de mai. On parle aussi bien assurance chômage que harcèlement sexuel, aussi bien sur l'apprentissage. Enfin, il y a un mélange plus. Cette réforme qui est énorme.
Elle est énorme.
Il y a un moment, on ne sait plus où donner. Enfin, voilà, on ne sait plus.
Je vois pas très bien, en l'occurrence, sur cette réforme-là, il faudrait pas que ce soit celle de trop, à mon sens. Je vois pas très bien le rapport coût-bénéfice politique sur cette réforme, puisqu'il ouvre un boulevard d'une certaine manière à l'opposition. On l'a vu avec la présence médiatique accrue de Gérard Larcher ce week-end, président du Sénat. Ouais. Donc il ouvre un boulevard d'une certaine manière à l'opposition pour un gain finalement, pardon d'être cynique, mais dans l'opinion qui est assez faible. La popularité de ce genre de mesures, si on reprend toutes les révisions constitutionnelles depuis 58, je crois qu'il y en a eu une quarantaine, on se souvient éventuellement de celle du quinquennat, le passage du septennat au quinquennat. Je trouve que le rapport coût-bénéfice est assez risqué.
Je crois que c'est pas le but. Je crois que le but est vraiment d'occuper le personnel politique. Et je crois que ça marche très bien.
Non,
pour faire passer des réformes qui, je pense, sont plus importantes, comme la réforme sur le chômage, comme la réforme...
La formation professionnelle.
La formation professionnelle, qui sont vraiment importantes.
Oui, mais tout de même, l'affaire de la réduction du nombre de parlementaires, l'opinion la réclame tout le temps. Et donc, bon...
C'est pas un peu démagogique, d'ailleurs.
Ah, mais ça, c'est autre chose. On peut avoir un avis là-dessus. On peut avoir un avis là-dessus. Mais vous interrogez les gens, c'est ça qui retiennent. Oui. De la même manière, l'histoire de la dose de proportionnelle pour que tout le monde soit représenté. La dose de proportionnelle, si on l'analyse bien, elle ne va rien changer à la représentation actuelle de la France insoumise ou du Front national. Mmh. D'ailleurs, c'est du genre 8 ou 10 députés.
Parce que ce serait fait pour ça, pour des partis.
Donc ça ne change rien.
Mais encore une fois, il n'y a que nous que ça étonne, parce que dans toute l'Europe,
dans
ça se passe comme ça.
Mais dans l'opinion, ça a un effet.
Allez, on va continuer à en parler. L'info à 20h20, Noémie Bonin.
Grosse pagaille en Charente-Maritime ce soir à cause de la neige. 80 000 personnes sont privées d'électricité. La rocade de Saintes est totalement saturée. En tout, 9 départements sont en vigilance orange. Audition terminée pour Nordal Lelandais à Grenoble. Le jeune homme a fourni des débuts d'explications sur la mort de la petite Maëlys cet été en Isère. Après plusieurs heures de questions des juges d'instruction. De la prison avec sursis requise contre 4 anciens salariés d'Air France. C'est le procès en appel de ce qu'on appelait l'épisode de la chemise arrachée. En 2015, 2 cadres de la compagnie bousculés. L'avocat général réclame de 3 à 5 mois de prison avec sursis. Donc c'est une peine plus importante qu'en première instance pour 2 des 4 employés. Les alliés de la Russie félicitent Vladimir Poutine pour sa réélection. C'est le cas par exemple des présidents syriens ou chinois. Message plus réservé du côté des Occidentaux, l'Allemagne ou la France. Emmanuel Macron a adressé au téléphone ses vœux de succès tout en rappelant les sujets qui fâchent, la Syrie et l'empoisonnement de l'ancien espion. Et puis aura-t-on un jour les transports en commun gratuits à Paris? Anne Hidalgo y pense. Elle veut en tout cas lancer une étude à ce propos dans les prochaines semaines. Voir s'il existe un modèle économique qui rendrait ce projet réalisable. La maire de la capitale l'annonce ce soir sur Twitter.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de ce qui va devenir le gros sujet politique du printemps. Alors bien sûr, il y a les mouvements sociaux, mais vraiment purement politiques. C'est la réforme de la Constitution à tel point que Emmanuel Macron a un adversaire de taille hallucinant. C'est Gérard Larcher quand même, un président du Sénat. Et lui, quand on l'a en face, on fait pas son malin. Anthony Bélanger, vous.
Non, il y a une chose que je voulais souligner qui est importante à mon avis, c'est qu'il ne réforme pas seulement pour les Français, il réforme aussi pour l'Europe. Non pas que l'Europe lui demande de réformer.
Mais ah,
Pour une fois, non. D'autant qu'en plus, on est plutôt dans les clous. En matière de déficit, non, il réforme aussi pour que l'Europe le prenne au sérieux. Je rappelle quand même en ce moment que beaucoup de pays s'étaient planqués derrière la Grande-Bretagne depuis toujours en disant mais c'est pas nous, c'est les Anglais qui veulent absolument cette Europe libérale, etc. Ouais. Et là, on se réveille avec une fronde de 4 ou 5 pays du nord de l'Europe, derrière les Pays-Bas et le Danemark, qui demandent d'abord à la France de mettre au carré ses propres comptes et sa propre politique avant de commencer à parler de réforme en Europe. Et c'est probablement pour ça. entre autres qu'il essaye d'accélérer les réformes aussi parce que cet homme est, un, est profondément européen et qu'il veut prouver aux Européens qu'il réforme pour de vrai.
Une chose, Stéphane Vermet, tout de même, parce que voilà, pour bien aussi saisir les enjeux, pour acter cette réforme, il faut passer par le Congrès, donc obtenir les 3/5 des élus, députés et sénateurs. On sait bien qu'avec donc, le Sénat, ça ne se passe pas très bien. C'est pas gagné, donc forcément, il y a un mot qui est revenu dans l'actualité, c'est le mot référendum. C'est quelque chose de crédible, ça ? Est-ce qu'on peut imaginer cette réforme ?
C'est compliqué parce qu'il y a plusieurs points dans la réforme. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la loi constitutionnelle, la loi organique, la loi simple. Oui. Donc il y a des choses pour lesquelles il faut qu'il ait cette majorité que vous évoquez. Mais sinon sur d'autres, il en a pas besoin. C'est compliqué. Est-ce que je peux vous dire deux choses? Anthony Bélanger parlait de Nicolas Sarkozy tout à l'heure en disant hop une réforme. Effectivement, Nicolas Sarkozy a démultiplié les réformes. Et la différence, c'est que Nicolas Sarkozy donnait l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, il sortait une nouvelle réforme où il fallait transformer la justice, transformer la société.
En réaction.
C'est vrai.
Emmanuel Macron, c'est très différent. C'est-à-dire qu'il dit, non mais attendez, moi je réforme beaucoup sans arrêt, mais tout est dans mon programme. Je fais ce que j'ai dit que je ferai.
Sauf les ordonnances de la SNCF.
Après, c'est une méthode. Mais pourquoi il le fait vite? Et je pense que derrière, il y a aussi l'idée que, vous savez, vous parliez tout à l'heure de, Aurélie parlait tout à l'heure de séduction. On a toujours la phase des 100 jours dans une nouvelle présidence. Elle est cramée, cette phase-là. Elle est consommée.
Il y a le problème du quinquennat qui est très
donc,
court.
Je pense qu'il y a aussi l'idée de se dire, plus on va vite, plus on fait passer des choses importantes tout de suite et rapidement, et plus on a de chances d'aller loin. Parce que c'est un président réformateur, parce qu'il veut transformer le pays. Et pour répondre à la question sur le référendum, le problème des référendums, c'est que quand vous posez une question à un référendum, les gens ne répondent jamais à la question. C'est Woody Allen qui donnait sa définition du référendum en disant « la réponse est non ». Quelle était la question?
Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc, évidemment, il y a un risque que les Français répondent à côté. Et en même temps, cette réforme-là de la Constitution, moi, je suis d'accord. Je pense qu'elle passionne pas les
foules. Non, elle passionne pas, mais pourquoi? Alors, voilà, on se lance là-dedans. C'est quelque chose, vous l'avez dit. Ça part dans tous les sens. La loi, ce qui doit passer par le Congrès. Elle passionne pas, en effet, peut-être le public, mais il y a un moment, on se demande pourquoi, voilà, maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait 5 ans pour le faire. Est-ce que ça veut dire que c'est le coup politique d'après? En fait, de miser sur une chambre plus élargie. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, finalement? On disait pendant la campagne, il y avait ce mot populiste. Qui s'applique à Emmanuel Macron? Également, c'est-à-dire, c'est en effet en disant « regardez, la politique, ça coûte cher, avec moins de députés, on sera mieux ?»
Je crois que c'est un peu son coup d'État, c'est le divide Brumaire de la République, mais d'une certaine manière. Effectivement, je me demande, moi, si c'est pas effectivement la réforme de trop dans le lot, mais ça s'explique, comme vous le disiez très bien, par la dimension pro-européenne d'Emmanuel Macron, a fortiori, je crois qu'on va en parler, dans un contexte ambiance guerre froide, où finalement, il y a un boulevard pour l'Europe, d'une certaine manière, et donc pour Emmanuel Macron.
En plus, je pense qu'il a choisi son camp. C'est-à-dire, je pense qu'il a choisi, grosso modo, la République française, la 5e République, oscille depuis le début entre le parlementarisme, c'est les deux cohabitations, ou le présidentialisme, quand le président est fort. Et je pense qu'Emmanuel Macron a clairement choisi le camp du présidentialisme.
Oui.
Il estime que dans l'époque où on vit aujourd'hui, c'est un choix, mais il faut le présenter comme ça à la population française.
Et pourtant, la 5e République, c'est pas ça.
D'accord ou pas. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a une partie de la 5e République qui peut se résumer à ça. Quand un président a une majorité à sa botte, on va le dire, une majorité qui lui ressemble, le régime français est un régime exceptionnel en Europe, c'est même le seul qui se résume à son président. Je rappelle toujours cette anecdote, mais qui est très importante à comprendre, que quand dans les réunions de chefs d'État et de gouvernement en Europe, il n'y a qu'un seul chef d'État, le président français, tous les autres sont des chefs de gouvernement issus de coalitions et de régimes parlementaires. Donc la France, en fait, choisit son camp.
Si c'est le présidentialisme qui, chez lui, domine, alors il sera tenté par le référendum, en se disant, je pose des questions auxquelles l'opinion adhère, si la campagne est courte, il obtiendra son référendum.
C'est une stratégie risquée.
Et à ce moment-là, effectivement, il sera le seul patron.
Mais le dernier référendum, on se souvient quand même, était très polémique, c'était en 2005. C'est vrai que ce sera
constitutionnel européen.
Ça a duré 6 mois, c'était sur l'Europe, et là il y avait
des référendums. Vous avez des référendums fermés, il n'y a qu'une question, c'est oui ou c'est non. Et ça, c'est casse-gueule. Après, vous pouvez faire un référendum dans lequel vous posez plusieurs questions, dont une des fouloirs où les gens peuvent
réduire le nombre de parlementaires
et sur d'autres et faire passer d'autres mesures. Et ça, ça peut fonctionner.
Allez, dans un instant, on parlera bien sûr de Vladimir Poutine. Je ne sais pas si vous êtes au courant, qui a été réélu. Et oui, puisqu'il y a eu des élections en Russie. On parlera également du plan contre le racisme et l'antisémitisme présenté aujourd'hui par Édouard Philippe. Voilà la suite du programme pour ce premier Informé de France Info de la semaine. On revient dans quelques minutes.
pensez que mini rime toujours avec petit? Dans le SUV Mini Countryman, on peut partir avec 4 amis, le chien, les valises, les paires de skis, les raquettes, la luge, l'appareil à raclette. Bref, on part où ce week-end avec le SUV Mini Countryman? En ce moment, découvrez la nouvelle édition suréquipée Oakwood avec feu LED, toit ouvrant, GPS tactile, coffre électrique, jante 18 pouces. À partir de 380€ par mois, LLD 36 mois, sans apport, entretien inclus. Mini. Exemple pour un Mini Countryman Oakwood 102 chevaux valable jusqu'au 31 mars 2018. Conditions sur mini.fr.
AXA.
Allô? Oui, je suis votre porte-monnaie.
Pardon?
Je vais être cash. Je me sens vidé en ce moment, mais j'aimerais vous parler d'une offre juteuse qui devrait faire nos affaires.
Dans la vie, un porte-monnaie a rarement de bonnes nouvelles à annoncer. Mais pendant les additions gagnantes d'AXA, si vous souscrivez un contrat auto et un contrat habitation, AXA vous rembourse 6 mois d'assurance habitation.
Je suis plein de ressources.
Offre valable du 8 janvier au 30 avril 2018. Conditions en agence ou sur axa.fr/addition-gagnante. AXA.
France Info Météo, avec le CIC, banque d'une PME sur trois en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Une dépression concerne le sud-ouest, elle apporte encore de la neige sur la Charente-Maritime et le Poitou ce soir. La pluie se transforme en neige aussi sur les Pyrénées, l'Occitanie, ça va durer jusqu'à demain matin. Demain après-midi, la neige se cantonnera au relief. Il va bien pleuvoir en Corse demain toute la journée. Ailleurs, ce sera calme, pas mal de nuages mais aussi des éclaircies. Le matin du nord-ouest à l'Alsace et dans le sud-est. Et puis l'après-midi, du nord de l'Aquitaine vers les Alpes, la Méditerranée et près de la frontière belge. Ça soufflera jusqu'à 50 à 70 km à l'heure, jusqu'à 110 dans le sud-est. Attention sur les routes, ça va geler, souvent 0 à moins 6 degrés attendu. L'après-midi, 4 à 10 degrés, ce sera mieux qu'aujourd'hui, et 11 à 14 autour de la Méditerranée.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Hugo Charpentier, bonsoir.
Bonsoir. Comment l'État va contrôler les chômeurs? Le gouvernement a dévoilé ce soir un nouvel arsenal de sanctions contre les demandeurs d'emploi qui ne remplissent pas leurs obligations. Une recherche insuffisante pourra désormais aboutir à la suppression pendant 4 mois des allocations. Autre point clé de la future réforme, la définition encadrant l'offre raisonnable d'emploi sera plus souple à l'avenir. Ces offres que le chômeur ne peut refuser si elles correspondent à ses critères de recherche sous peine de sanctions. En revanche, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé que les sanctions seraient allégées si un chômeur ratait sans motif valable un rendez-vous avec Pôle emploi. Le projet de loi global devrait être présenté en Conseil des ministres mi-avril et au Parlement durant l'été prochain. Les premières négociations aujourd'hui sur l'avenir de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, élus du territoire, syndicats agricoles et représentants d'associations. Un comité de pilotage s'est réuni pour la première fois depuis l'abandon par le gouvernement du projet d'aéroport. Présidé par la préfète de la région Pays de la Loire, cette réunion a ouvert la voie à des projets agricoles sous forme de titre d'exploitation temporaire. La préfète Nicole Klein tend donc la main aux occupants du site à condition, dit-elle, que leur projet concerne l'agriculture au sens large. C'est aujourd'hui que s'est ouvert à Londres le procès du couple qui hébergeait Sophie Lyonnais comme jeune fille au pair. Le 20 septembre dernier, le corps de la jeune femme de 21 ans est retrouvé carbonisé et démembré. Il se trouvait dans le jardin de ce couple de Français au cœur d'un quartier huppé dans l'ouest de la capitale britannique. Cette première journée d'audience devant la cour criminelle était consacrée à la femme du couple, Sabrina Quidet, que le procureur soupçonne d'être l'instigatrice du meurtre, Benjamin Mathieu.
Cette première après-midi d'audience a essentiellement porté sur les relations entre Sabrina Quidet, une mère de famille âgée de 34 ans à l'allure bourgeoise, habitant dans la banlieue ouest de Londres avec son compagnon, et Sophie Lyonnais, leur jeune fille au pair, âgée de 21 ans, venue dans cette famille pour s'occuper de leurs deux enfants et apprendre l'anglais. Les relations entre les deux femmes se dégradent rapidement jusqu'aux violences physiques, mais la jeune fille au pair reste de façon inexpliquée, pourtant dans ce foyer londonien. Peut-être est-elle trop timide, avance le procureur dans son acte d'accusation, ou sous l'emprise de sa patronne. Celle-ci, au fil des témoignages recueillis, est décrite comme manipulatrice et dominatrice. Mais après cette première journée d'audience, il est encore trop tôt pour tenter de comprendre pourquoi et comment Sophie Lyonnais est morte, ni pourquoi ce couple a brûlé son cadavre au fond de son jardin. Les éléments sont pour le moment confus et la famille de Sophie, présente à l'audience aujourd'hui, encore loin de trouver des réponses à leurs interrogations.
Et puis Facebook chute en bourse après les révélations sur une affaire de données personnelles. L'action du célèbre réseau social a perdu près de 6% de sa valeur sur la place new-yorkaise. Facebook est mis en cause depuis quelques jours pour son laxisme et son manque de réaction face à un logiciel mis au point par la société Cambridge Analytica qui collectait des données personnelles d'utilisateurs avant de les revendre à la campagne de Donald Trump. Il est 20h33 sur France Info, la suite des informés, Jean-Mathieu Pernat.
20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernat.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT, et eux, à la grande raclette de l'actualité, ils ne laissent pas cramer leur tranche de fromage, non. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Stéphane Vernet de West France, la communicante Aurélie Motarivet, François Dorcival de Valeurs Actuelles, et Anthony Bélanger, bien sûr, de
Qu'est-ce
France
Inter. Qu'est-ce qui vous arrive avec l'histoire de
raclette? C'est le froid, et voilà, et on peut avoir faim aussi, voilà, ça arrive. Quel échec pour Vladimir Poutine. Il a été élu hier pour un quatrième mandat de président de Russie avec seulement 76,67% des voix. Ridicule, mais ridicule, hein, puisque 24 heures avant, Jean-Christophe Lagarde était lui réélu président de l'UDI avec 90%. Et oui, voilà. Alors, Poutine peut aller se rhabiller torse nu, hein, dans la toundra. En tout cas, élection sans surprise, bien sûr, un plébiscite pour Vladimir Poutine qui augmente son score de 10 points par rapport à l'élection présidentielle de 2012. Alexis Navalny, principal opposant, a beau avoir dénoncé des fraudes et des bourrages d'urnes, rien n'y fait. La victoire de l'homme du Kremlin est implacable et la reconnaissance de sa victoire est un moment de joie vraiment intense. Vladimir Poutine.
Nous allons nous concentrer sur l'avenir de notre grand pays, l'avenir de nos enfants. Nous sommes condamnés à réussir.
Voilà, Vladimir Poutine en chauffeur de salle qui est resté à peu près 5 minutes avec ses partisans. Mmh. Vraiment, c'était une occupation du week-end. Anthony Bélanger, en 2012, on se souvient, lorsqu'il avait été élu pour la troisième fois, il y avait eu des manifestations, mais vraiment importantes. Ouais. Et là, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus du tout d'opposition aujourd'hui.
Il a eu 6 ans pour éliminer toute opposition et se choisir ses opposants. Il ne faut quand même pas oublier qu'un de ses principaux opposants, Boris Nemtsov, quand même, a été criblé de balles sous les murs du Kremlin. Si ça n'est pas un avertissement pour ceux qui s'opposent sérieusement, j'en connais pas d'autres. Je rappelle quand même que pour son 54e anniversaire, il s'était payé d'une certaine manière l'assassinat de Anna Politkovskaya, à l'époque la journaliste. Mm. C'était un 7 octobre 2006, et à l'époque, et c'était pile le jour de son anniversaire. Il adore les anniversaires, Vladimir.
C'est pas lui, hein, personnellement. Hein,
non, voilà. Bien sûr. Mais donc en fait, grosso modo, l'opposition a été mise en coupe réglée. Quand il y a un candidat qui pourrait lui poser un problème parce qu'il a du charisme et qu'il dit les choses que les Russes veulent entendre, parle de corruption notamment, eh bien, il fait en sorte qu'il ne puisse pas se présenter. Et à la place, il nous met donc la fille de son mentor politique à lui-même, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qu'il méconnaît, c'est quand même il a suscité la candidature de son mentor, de la fille de son mentor en politique, Madame Sobchak,
Paris Hilton russe,
voilà, en plus tenait des positions qui étaient évidemment contre tout ce qu'on peut imaginer être populaire en Russie. Elle, par exemple, elle s'est opposée à l'annexion de la Crimée, ce qui était un bon moyen d'obtenir 80% de non.
C'était la candidate de l'Occident. C'était exactement...
Non. Ce n'était pas
des élections. Malheureux de devoir les commenter comme des élections. Enfin, ça n'a rien à voir avec
l'élection. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a vu pendant l'élection, Vladimir Poutine n'a parlé que d'une chose, c'est la grandeur de la Russie, On n'est pas du tout comme, par exemple, en France, où les débats portaient sur le bilan de Vladimir Poutine. Parce que, économiquement, le bilan de Vladimir Poutine, il n'est pas quand même extraordinaire. Hein. La Russie a reculé du 10e au 12e rang mondial. Ces années au pouvoir, il n'y a pas un PIB qui est formidable. Il peut y avoir d'autres choses, voilà, à son crédit. Mais la politique intérieure de Vladimir Poutine, c'est son intérêt de jouer l'international et la fierté de la Russie.
Et bien entendu. Mais depuis la disparition de l'Union soviétique, de toute façon, tous les présidents qui se sont succédés n'ont fait que ça. C'est essayer de retrouver la place de la Russie, la place qu'elle a occupée quand elle s'appelait l'Union soviétique. Et lui n'a pas manqué d'appuyer sur ce point. Mais une fois qu'on a dit que ces élections n'étaient pas des élections, très bien. D'abord, pourquoi l'Occident a-t-il fait une telle campagne pour le soutenir ? Je veux dire par là que la campagne occidentale de démolition de Poutine, ça ne faisait qu'accroître son électorat et son succès.
Quelle campagne de démolition ?
Ben, il n'y a que ça.
C'est-à-dire ?
Mais tous les pays occidentaux n'ont fait pendant cette campagne que démolir Poutine.
C'est-à-dire, par exemple, quand il y a un ex-espion soviétique qui est assassiné,
Oui, C'est intéressant.
Oui,
c'est
intéressant. Quand il envahit la Crimée, par exemple.
Non, ouais. mais la Crimée, c'est pas d'aujourd'hui.
Non, mais oui,
je vais simplement donner un exemple qui a été donné sur cette antenne tout à l'heure par le président du syndicat de l'édition, qui donc donnait les résultats du Salon du Livre. Le président de la République visitant ce salon n'est pas allé au stand russe. Du coup, le stand russe a été l'un des plus fréquentés pendant ce salon. Eh bien, d'une certaine manière, c'est cela que nous avons obtenu en Russie.
Aurélie Motarivé.
Je ne suis pas complètement d'accord avec François Dorcival, mais là où je le rejoins, c'est que c'est vraiment la stratégie de Russia First. Et effectivement, c'est la mise en scène, d'une certaine manière, d'une ambiance guerre froide qui le sert politiquement au plan national. Donc plus il est affaibli, isolé au plan international, où il donne l'impression d'être isolé, plus il est renforcé au plan national. Au fond, on l'a vu avec la semaine dernière, avec l'affaire d'empoisonnement sur le territoire anglais.
Je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a une partie de l'opinion russe qui clairement le soutient parce qu'il pense qu'il l'a remis la Russie sur la carte du monde, en fait. Mais il ne faut pas oublier quand même que, comme dans toutes les économies, enfin toutes dans tous les pays, les affaires économiques pèsent énormément. Or, c'est vrai que... J'ai perdu un bouton. Oui. C'est vrai que Vladimir Poutine n'a pas donné de résultats véritablement économiques à la mesure de ce qu'on pouvait attendre d'un pays qui, quand même, est le premier producteur mondial de pétrole. Peut-être notamment à cause de la baisse du prix du pétrole. Je rappelle tout simplement, pour vous donner une ordre d'idée, que le PIB de la Russie, c'est celui de l'Espagne, ou un peu plus.
C'est ça, oui.
Donc quand vous parlez avec Vladimir Poutine, en fait, vous parlez avec Mariano Rajoy. Ni plus ni moins.
Les missiles balistiques de Poutine ne sont pas les mêmes que ceux de Rajoy.
Les missiles balistiques de Poutine, vous pouvez en avoir 200, vous pouvez en avoir 2000, ce sont les armes qu'on ne peut pas utiliser, qui ne servent à rien.
Sauf pour dissuader.
Pour dissuader. Donc la France dissuade tout autant avec 300 que la Russie avec 2000.
Regardez ce qui se passe en Syrie.
Encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez un gros bazooka, un plus gros bazooka que le mien, que vous tirez mieux.
Il y a une focalisation
sur, par exemple, l'extraordinaire armée russe, alors que je rappelle que la Russie possède un porte-avions, comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme au fond les puissances moyennes. La Russie est une puissance moyenne qui a le PIB de l'Espagne. Et donc quand vous parlez, il faut avoir ça en tête pour savoir de quoi on parle.
Pourquoi est-ce qu'on la fait grossir comme ça? Pourquoi est-ce qu'on la prend pour le diable
propagande,
absolu?
Propagande.
On va y revenir là-dessus. Hein, diable pour certains, petit angelot hein, pour d'autres. En tout cas, on va voir ce qu'il en est dans un instant. L'info à 20h40, Noémie Bonin.
Les syndicats ressortent inquiets de la réunion avec la ministre du Travail cet après-midi. C'est à propos du contrôle des chômeurs. Les organisations dénoncent une accentuation des sanctions au détriment de l'accompagnement. Elles attendent désormais de connaître le contenu précis du projet de loi présenté mi-avril en Conseil des ministres. La justice ordonne l'inscription à l'école d'enfants syriens. Le tribunal administratif de Versailles donne à la ville d'Athis-Mons en Essonne jusqu'à la fin du mois pour inscrire une cinquantaine d'élèves que le maire Les Républicains refusait d'accueillir au prétexte qu'ils ne vivaient pas dans des logements pérennes. 7 heures d'audition pour Nordal Lelandais aujourd'hui à Grenoble et visiblement le jeune homme a été plus loquace que les dernières fois. Il a commencé à fournir des explications sur la mort de la petite Maëlys cet été en Isère. Une femme percutée par une voiture autonome aux États-Unis dans l'Arizona cette nuit, un véhicule testé par la société Uber. C'est le premier accident mortel qui implique ce type de voiture. Un porte-parole d'Uber affirme que l'entreprise suspend ses essais de véhicules autonomes en Amérique du Nord. Et puis un Français accusé d'avoir transporté plusieurs dizaines d'armes entre Gaza et la Cisjordanie pour le compte d'un réseau de trafiquants palestiniens. L'homme a été inculpé aujourd'hui par la justice israélienne. Il travaillait au consulat général de France à Jérusalem en tant que chauffeur.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de Vladimir Poutine, réélu ce week-end à 76%. On imagine les soirées électorales. Vous savez, ici, nous, on est toujours très excités par les soirées électorales. Ça ne doit pas durer très très longtemps en Russie, en tout cas hier, puisqu'il a suffi d'un seul tour. Stéphane Vernet, alors Emmanuel Macron, lui, a adressé un message aujourd'hui à Vladimir Poutine. Et il a adressé en fait un message à la Russie et au peuple russe, donc au nom de la France. Ses vœux de succès pour la modernisation politique, démocratique, économique et sociale du pays. Et aucune félicitation à titre personnel, en fait.
Non, c'est pas des félicitations. Puis derrière, il a parlé de la Syrie, il a parlé de l'empoisonnement de l'ancien espion, il a évoqué l'Ukraine. En fait, c'est pas un message de félicitations, c'est quasiment un message d'insulte. Parce que quand vous dites à un dirigeant que vous souhaitez des vœux de succès pour la modernisation politique, démocratique, économique et sociale du
c'est
pays,
c'est son bilan.
Ça veut dire ton pays est sous-développé. Donc voilà. Mais alors, moi, si je peux en profiter pour revenir sur deux, trois points, je suis tout à fait d'accord avec Anthony Bélanger concernant le fait que cette victoire, elle est d'abord liée au fait que Poutine a écarté les opposants qui pouvaient lui faire de l'ombre, notamment c'est le cas d'Alexei Navalny, qui était celui qui pouvait compter et qui a été empêché de se présenter. Après, est-ce qu'il y a eu des fraudes? Certainement. Est-ce que ces fraudes ont fait son élection? Pas du tout. Moi, je pense qu'avec ou sans fraude, de toute façon, il aura été élu, parce que c'est le fruit de cette stratégie, et puis parce que les Russes ne le voient pas du tout avec les yeux. Avec bien nos sûr. Yeux, en fait, le regard est très, très différent. On a évoqué le fait que c'était Russia first, le fait qu'il ait remis le pays sur les rails. Ça a été très vrai dans les années 90, parce que nous, on n'a pas vécu, donc on peut pas considérer le trauma qu'a représenté pour l'ancien bloc soviétique, l'effondrement du mur, etc., de toutes leurs valeurs, de ce en quoi ils avaient cru.
De toute façon, il faut bien expliquer que c'est une humiliation. Voilà. Il faut bien expliquer pour Vladimir Poutine, tout ça, c'est la même histoire.
Oui,
c'est,
mais voilà, alors, c'est sur le PIB de l'Espagne, oui. Sauf que, imaginez l'Espagne qui consacrerait 4% de son PIB à ses dépenses militaires. C'est ce que fait Poutine depuis les années 2000.
Très cher, convaincu.
Non, mais l'arsenal nucléaire, il va peut-être pas l'utiliser, mais il est énormissime, il a de quoi détruire plusieurs fois la planète.
Et il coûte une
blinde.
Mais il
a aussi. Non, mais ça coûte une blinde. 4% du PIB, c'est considérable, même pour un pays c'est qui a. Vrai. Voilà. Mais pour terminer, il a à sa disposition des forces spéciales d'élite qui sont en parfait état de marche. Il est capable de mener une guerre dans l'espace.
Comme la Grande-Bretagne.
Et il est présent sur les cyberattaques, etc.
Alors.
C'est quand même une.
Juste
pour rebondir sur ce que vous disiez sur le communiqué de l'Élysée, je trouve que c'est intéressant. On rentre en fait dans la phase 2 de la communication diplomatique d'Emmanuel Macron. On se souvient de la première phase qui était une phase très positive d'accueil, Poutine à Versailles, Trump au 14 juillet au défilé. Ça va être très intéressant de voir comment il gère cette séquence beaucoup plus difficile, beaucoup plus sensible. Et a fortiori dans un contexte où en plus il a à gérer la communication au plan national avec l'ensemble des réformes qu'on a évoquées.
Vous parlez d'or. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'avec le PIB de l'Espagne, la Russie consacre 60 milliards de dollars par an à son armée. Et encore, ça c'est le budget qu'ils avouent, parce qu'il y a un budget caché, comme toujours avec la Russie. Notamment pour entretenir ces fameux milliers de bombes atomiques. Bon, la conclusion c'est quoi? C'est qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc du coup, où prennent-ils? Et bien sûr, ce qui fait l'essentiel de la vie économique d'une population. Je vous donne un exemple. L'Espagne, avec son PIB, a réussi à couvrir son pays de lignes de TGV, de ponts, de routes, d'aéroports, d'hôpitaux, d'écoles. Et ce, en 20 ans. Qu'a fait Poutine? Où sont les routes? Où sont les aéroports? Où sont les lignes de TGV? Où sont tous ceux qui se sont baladés en Russie? Tous ceux savent que le pays est dans un état déplorable. Donc en fait, ce que fait Vladimir Poutine, et ça va finir par lui coûter des points de popularité, ou même tout simplement, sa population va finir par lui réclamer à corps et à cri qu'il dépense moins d'argent à faire la guerre, moins d'argent à acheter des armes, et un peu plus à s'occuper de la population qui était laissée en totale déshérence.
François Orcival.
Oui, un mot à propos de ce que disait Aurélie il y a une seconde, c'est-à-dire les relations entre la France et la Russie.
Oui.
Ne pas oublier que le président de la République, Emmanuel Macron, est attendu en Russie en visite officielle du 23 au 25 mai.
Pour Saint-Pétersbourg.
Cette visite n'est pas annulée, cette visite n'est pas reportée. Elle a été préparée par Jean-Yves Le Drian. D'où, effectivement, les échanges qui ont lieu, qui sont destinés à notre opinion, à nous, mais nous verrons ce qui se passera à Moscou.
Mais ça a été au cœur aussi, on l'a vu, d'une petite pique, je ne sais pas si vous l'avez lu dans le journal Le Monde, c'était la semaine dernière, lundi dernier, on en parlait d'ailleurs ici, c'était François Hollande, ancien président de la République, qui dit à Emmanuel Macron, attention, la Russie, eh bien, sur la Syrie, sur le dossier syrien, il ne faut pas être faible avec
eux. Il ne faut pas abandonner les Kurdes.
Voilà. Il ne faut pas être faible avec la Russie.
C'est surtout que la Russie profite de toutes les faiblesses. Tenez par exemple, l'affaire de l'espion empoisonné en Grande-Bretagne. Pourquoi à ce moment? Pour des raisons intérieures, parce qu'il y avait à deux jours près une élection et qu'il savait très bien que l'Occident allait bondir en scandaliser, ça pouvait le servir. Et puis, pour une autre raison, c'est que la Grande-Bretagne est affaiblie. affaiblie, que la Grande-Bretagne a besoin de l'argent russe qui s'investit à la City
Donc
ailleurs.
Vous pensez que ça lui a servi à Vladimir Poutine, cette affaire d'espion russe?
Ça lui a servi d'une manière intérieure, ça c'est évident. C'est-à-dire qu'il voulait montrer qu'il était seul face à l'Occident. C'était fait en deux déclarations de Theresa May et de solidarité gouvernementale des gouvernements alliés à la Grande-Bretagne. Mais par ailleurs, il a pu le faire aussi parce qu'il cherche les points de faiblesse. Or, la Grande-Bretagne, c'est le talon d'Achille en ce moment de l'Europe. La Grande-Bretagne est en train de négocier sa sortie. Donc, il n'y a pas un gouvernement européen qui peut exprimer tout à fait, avec une totale sincérité, sa solidarité avec la Grande-Bretagne.
Pourquoi la Grande-Bretagne a-t-elle sorti ça? Pourquoi Mme May a-t-elle sorti ça?
Mais parce que
ces affaires, il y en a combien d'agents 14. Doubles qui sont...
Alors, il y a 14 qui sont, affaires qui sont réouvertes.
Et qui n'ont pas été traitées. Or, elle était ministre de l'Intérieur. Donc, ça veut dire que la Grande-Bretagne et elle-même ont passé sous silence un nombre important d'exécutions.
Je suis d'accord avec vous pour dire que la Grande-Bretagne est un poil hypocrite sur leur sujet.
Donc elle le fait en accord avec les Américains.
Je suis désolé, je vais être un peu cynique, mais il y a eu en effet des crimes inculpés, des choses finalement aujourd'hui attribuées à des suicides. Là, c'est un objet chimique, ça veut dire qu'aurait pu aller très très loin.
Dans le métro, il y a des écoles à proximité.
On est sur une zone habitée, donc ça veut dire que on passe le cran au-dessus. On n'est plus seulement malheureusement dans un...
Le polonium, c'est pas mal.
On n'est plus avec le parapluie bulgare.
L'aluminium, c'était pas mal dangereux non plus. Il avait quand même fallu brûler tous les meubles du salon de thé dans lequel Divinenko avait pris le son de thé.
Une dernière chose sur Vladimir Poutine, Stéphane Vernet et après tout le monde, pourquoi il fascine aussi Vladimir Poutine? On le voit chez des Français, des politiques français qui sont fascinés par Vladimir Poutine. On connaît François Fillon, on a vu d'autres, Jean-Luc Mélenchon, on a vu Marine Le Pen. Pourquoi? Il représente un barrage, c'est ça en fait.
Mais parce qu'il existe aussi en France une tentation de l'autoritarisme et que c'est un courant qui traverse le monde. On a parlé à plusieurs reprises de Donald Trump, c'est le même phénomène. Pourquoi est-ce que les Américains ont élu Trump? Nous, quand on le voit, vu de notre point de vue, ça paraît complètement irrationnel. Pourquoi est-ce que ces peuples choisissent des gens qui sont des autocrates, des va-t-en-guerre?
Bon, ils ne les choisissent pas. Je rappelle qu'il n'a pas été choisi, il a été désigné. Successeur d'Eltsine. Aux États-Unis,
c'était la même surprise pour nous, sauf que les Américains le voyaient comme le candidat qui promettait à la middle class américaine de retrouver son lustre. Il y a un peu les mêmes phénomènes, et c'est un courant qui traverse le monde. Et nous, on est en train de se demander pourquoi est-ce que ces peuples, nos voisins, choisissent des populistes, mais il faut qu'on fasse attention, parce que au train vont les choses, bientôt tout le monde va se demander pourquoi les Français n'ont pas encore choisi de populistes.
François Arcival, sur cette fascination Vladimir Poutine, poutinienne pour certains, parce que c'est quoi? C'est un homme qui monte ses muscles face aux États-Unis, parce qu'il dit...
Ça joue. L'anti-américanisme a toujours bien fonctionné dans ce pays.
C'est
vous avez raison.
C'est ça, en
fait.
Oui,
il y a des raisons de droite et des raisons de gauche.
Il y en a au moins un, et d'ailleurs, écoutez tout de même, Donald Trump a été élu dans un climat où il allait renouer avec la Russie. Mmh. Il allait renouer avec la Russie. Qu'est-ce qui se passe depuis qu'il a été élu? Tout est fait pour qu'il n'y ait qu'un climat de rupture entre eux. C'est intéressant.
Juste il y a effectivement des raisons de droite et des raisons de gauche. La tentation de l'autoritarisme d'une part, ou l'anti-américanisme pour la gauche, le fait d'être... on a l'impression qu'il est comme ça seul face à l'Occident, qu'il détient une vérité alternative à la nôtre, et puis une propagande absolument incroyable, et les moyens qu'il se donne...
sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux et sur la télévision.
Énormément.
On va en parler dans un instant des réseaux sociaux, mais on sait qu'il y a des médias comme Russia Today qui sont très puissants sur les réseaux sociaux.
Quelques idiots utiles pour lui servir la soupe, c'est vrai.
Allez, dans un instant, on va parler justement du plan contre le racisme et l'antisémitisme présenté par Édouard Philippe. Aujourd'hui, l'info à 20h50, Noémie Bonin.
Le calvaire d'une jeune fille au père devant la justice. Le procès du couple de Français qu'il employait à Londres a commencé aujourd'hui dans la capitale anglaise. Le corps de Sophie Lyonnais a été retrouvé en septembre dernier dans le jardin de la famille. La jeune femme de 21 ans a vécu l'horreur pendant les mois avant sa mort, a décrit le procureur aujourd'hui. Un opposant au projet Cigéo de Bure, condamné à 3 mois de prison ferme aujourd'hui pour violence sur des gendarmes. C'était pendant l'évacuation il y a un mois du Bois-le-Jus, le centre de la contestation à ce projet d'enfouissement des déchets nucléaires dans la Meuse. Le procès en appel du fameux épisode de la chemise arrachée des cadres d'Air France. L'avocat général a requis cet après-midi de 3 à 5 mois de prison avec sursis contre 4 anciens salariés de la compagnie aérienne, 2 ans et demi après les faits. Flocons et bouchons en Charente-Maritime ce soir à cause de la neige. La circulation est très compliquée autour de Saintes. 80 000 personnes sont également privées d'électricité. Le département est en vigilance orange jusqu'à demain, tout comme les Deux-Sèvres voisines et 7 autres départements du sud-ouest, des Pyrénées orientales jusqu'aux Pyrénées atlantiques. Et puis les clubs de foot de Lyon et de Marseille risquent des sanctions après leur dernier match en Europa League la semaine dernière. L'UEFA ouvre 2 procédures disciplinaires. Il leur est reproché différents troubles dans les tribunes.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors vous le savez, les réseaux sociaux sont une invention formidable, mais il est vrai que passer une soirée devant peut faire un peu désespérer de l'humanité de temps en temps. Un propos est tous en flammes et des dérapages racistes sont plus que fréquents. Voilà pourquoi, en présentant son plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme ce matin, Édouard Philippe a particulièrement appuyé sur ce qu'il appelle la cyber-haine et souhaite modifier la loi pour punir plus sévèrement les auteurs de messages racistes sur Internet. Il a lancé une initiative européenne, mais souhaite accélérer d'abord les choses en France, car il y a de quoi s'énerver. Le Premier ministre, Édouard Philippe.
Reconnaissez avec moi qu'il y a de quoi s'énerver. Reconnaissez avec moi qu'aujourd'hui, il est plus facile de faire retirer une vidéo de retransmission en direct d'un match de football sur les réseaux sociaux qu'une atteinte antisémite ou raciste.
Voilà, Édouard Philippe, ce matin, Aurélie Motarivet, est-ce que ce plan, là, on se dit, est-ce que c'est possible de faire entendre raison? Et on se dit, derrière, il y a quand même une petite idée, c'est, tiens, encore, on a déjà entendu cette idée-là.
Je crois que l'intention est très bonne, c'est très utile. Ouais, le focus est pertinent puisque la radicalisation, on le sait, se fait sur Internet et sur les réseaux sociaux. Après, attention à ce que ce plan soit pas un énième plan de com, puisqu'on en a eu beaucoup, des plans, on s'en souvient, sur ce sujet du racisme.
Alors, je vais vous le dire, juste pour aller dans votre propos, juste avant que vous repreniez, François Fillon, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls. Hein, voilà, chacun voilà.
Avait fait... On sait qu'on a du mal, en plus, à évaluer l'efficacité de ce type de plan. Donc, pour moi, le vrai sujet, au fond, de lutte contre le racisme, c'est l'intégration de la diversité en entreprise, dans les lieux de pouvoir, dans les cabinets ministériels et finalement dans les start-up et la start-up nation. Je crois qu'on aura vraiment gagné en fait sur ce sujet quand on en sera là.
Une chose, Anthony Bélanger, depuis, alors il y a un exemple qui est cité par tout le monde, c'est forcément l'Allemagne. Depuis début janvier en Allemagne, il faut le savoir, les médias sociaux ont 24 heures pour effacer tout contenu haineux sous peine de 50 millions d'euros d'amende. C'est l'exemple à suivre en Allemagne.
C'est l'exemple qu'on ne suivra pas, parce que là, ce sont vraiment des mesures d'affichage en France. C'est-à-dire que le racisme, c'est pas bien, l'antisémitisme non plus. Et d'ailleurs, on va faire un plan-plan avec une co-commission. Et puis la co-commission, elle va décider de mesurette pour ensuite revenir auprès du gouvernement.
En Allemagne, ça marche.
Je vous assure qu'en Allemagne, ça me rappelle en fait les mesures qu'avait pris la Norvège, par exemple, pour obliger les entreprises à avoir plus de 50% de femmes dans les conseils d'administration. C'était il y a 20 ans de ça. Vous savez comment ils ont décidé? Ils ont donné une date limite. Et à partir de là, s'il n'y avait pas plus de 50% de femmes dans les conseils d'administration, les entreprises étaient dissoutes. Je peux vous assurer que dans les 2 ans, ils avaient trouvé leurs femmes. Donc, en fait, il y a un moment aussi où il faut être un peu sérieux. Vous voulez vous battre contre le racisme sur les médias sociaux? Eh bien oui, vous menacez les médias sociaux de 50 millions d'euros d'amende pour chaque
insulte chaque raciste
qui n'aurait pas été la... Le lendemain, je peux vous assurer que les réseaux sociaux allemands ont embauché des équipes entières pour nettoyer leur flux d'informations. Voilà. Et en France, eh bien, on entend le Premier ministre dire, encore une fois, le racisme, c'est pas bien, l'antisémitisme, c'est encore moins bien.
Stéphane Vernet, aussi Édouard Philippe a dit, c'est un problème aussi français. Il y a un moment, il faut arrêter de penser que c'est parce que ce sont des entreprises qui sont dans la Silicon Valley que l'on ne peut pas faire appliquer des lois françaises. Mais est-ce que c'est pas l'éternel problème, en fait, de réguler, en effet, sur ces réseaux?
Bon, moi, j'ai une autre façon de voir les choses. Je pense que la problématique du racisme en France, de l'antisémitisme et de la haine, elle est pas liée aux réseaux sociaux. C'est pas Internet, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas Twitter ou Facebook qui génèrent ces phénomènes.
C'est une caisse de résonance.
C'est une formidable caisse de résonance, mais c'est une espèce de miroir tendu à la société, à notre société. Et aujourd'hui, quand on se regarde dedans, Dieu que c'est moche ce qu'on y voit, c'est assez effrayant. Donc le problème, il est ailleurs, c'est ce que vous venez de décrire. Et donc si on veut traiter les racines du mal, c'est ailleurs qu'il faut le prendre.
Après,
c'est un travail de fond, c'est très long. Dans l'urgence, si on veut mettre fin à ces torrents de boue, pour reprendre le propos d'Edouard Philippe, alors il y a les mesures qui sont proposées, il y a l'idée de ce que fait l'Allemagne, les 50 millions, etc. Il y a aussi une autre solution qu'on pourrait mettre en place, c'est considérer que tous tous ces supports, on leur donne le statut d'éditeur en France. Ce qui les rendrait pénalement responsables de tout ce qui est diffusé.
Ça, c'est une excellente idée.
Ouais. Y compris des choses qui ne produisent pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait une alerte sur Twitter ou Facebook en disant « j'ai été menacé de mort ici », la plupart du temps, c'est un message automatique qui vous revient en disant « non, on trouve qu'il n'y a pas de problème ».
François Orsival, rapidement pour vous, est-ce que c'est un énième plan ou au contraire, là, il y a une volonté de taper comme en Allemagne, voilà, c'est très fort contre ces messages.
C'est très simple. Si la volonté de taper est là, comme en Allemagne est là, eh bien, faisons-le. Faisons-le, il y a toujours un responsable. Mais je rappelle quand même que quand Mme Sarah Halimi a été assassinée dans des conditions épouvantables, il a fallu un an pour qu'on dise que c'était aussi un crime antisémite. Pourquoi ?
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, en tout cas, à dire sur le sujet. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup, Aurélie Motarivé. Merci.
Comment ça doit se
terminer ? Eh bien oui, Anthony Bélanger, parce que vous devez aller vous coucher, parce qu'on vous retrouve dès demain à 6h45 sur France Inter pour parler actualité internationale. Et puis après, vous revenez sur France Info. Merci. Stéphane Vernet, la une de West France demain.
Notre-Dame-des-Landes, on s'intéresse aux terrains, ce qui vont venir. C'est bientôt le 30. Voilà.
Exactement.
Et nous, sur 68.
Bien sûr.
Ça va être bien.
Voilà, en tout cas.